Nul n'est prophète en son pays. Alors on connaît bien cette phrase, cet adage, qui vient de ce texte de Luc, qu'on a sorti de son contexte. Nul n'est prophète en son pays. C'est une phrase que tout parent d'adolescent a dû méditer au moins une fois dans sa vie. Vous savez, pendant ces moments où vous donnez des conseils, vous essayez d'incarner un exemple, et puis, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne trouve pas d'écoute. Alors, c'est normal de prendre le contre-pied de ses parents. Il faut bien construire son identité pour devenir quelqu'un d'unique, quelqu'un d'autonome. Mais, n'empêche, des fois, ils nous font un peu peur, ces enfants. Quand ils nous disent « T'inquiète, je gère !» Et on sait bien qu'il faudra quand même intervenir, d'une manière ou d'une autre, dans leur emploi du temps, au moment le moins opportun pour nous, parce qu'ils ne gèrent pas tant que ça, et qu'ils ont besoin qu'on les aide malgré tout. Mais parfois, ils nous surprennent, et on les découvre capables de plein de choses, et aussi de prendre des responsabilités, de faire les bons choix. N'empêche, la reconnaissance intergénérationnelle, c'est quand même un sacré défi. Et on le voit bien dans nos églises. On se plaint souvent de n'y voir pas beaucoup les jeunes. Mais peut-être qu'on les a un peu considérés aussi comme des personnes qui doivent recevoir des plus vieux. On a cherché à les assimiler à nos activités habituelles sans forcément tenter de s'adapter à leurs capacités ou à leurs besoins. Bien sûr, on ne peut pas leur demander le même investissement qu'aux aînés, aux plus vieux. Alors, on les a souvent réduits à accomplir des tâches un peu ennuyeuses. Ils ne savent pas gérer l'organisation d'un événement, ils ne peuvent pas anticiper grand-chose. Ils ne trouvent pas forcément leur place au milieu des adultes accomplis. Et nous les cantonnons alors à la mise en place des tables pour la vente de paroisse, et c'est souvent là qu'on les rencontre, et on se dit qu'on aurait pu partager tellement plus. On aimerait bien les intégrer autrement, mais on ne sait pas très bien comment faire, on a peur de leur maladresse, on a peur de les mettre dans des situations trop compliquées. Puis de leur côté, les jeunes voient souvent les plus vieux comme des personnes butées, qui ne comprennent pas le monde dans lequel elles vivent, qui ne possèdent pas des codes des nouvelles technologies, qui ne comprennent pas les nouveaux enjeux de société, des vieux qui diabolisent tout. Alors, peut-être qu'elles préfèrent les éviter. D'un côté comme de l'autre, on ne se rencontre pas vraiment. On vit dans deux mondes séparés l'un de l'autre qui peinent à se rejoindre. Et de part et d'autre, on peine à partager nos compétences. D'un côté comme de l'autre, en même temps, il y a peut-être une angoisse qui peine à s'exprimer et qui pousse chaque génération au repli sur soi. Il y a l'angoisse du début de la vie. Vous savez, ce moment où on a des aspirations sans nombre, mais face à un univers tellement complexe qu'on craint de s'y dissoudre. Et à l'intérieur de soi, il y a un cri silencieux, celui du besoin de reconnaissance de son caractère unique, de sa personne. Et puis il y a aussi l'angoisse de la fin de parcours, la peur que le monde change tellement qu'on finisse par se retrouver à côté de la plaque, sur le bas-côté du chemin. Ça, c'est l'angoisse des plus âgés. Mais à l'intérieur, il y a aussi un cri qui résonne, celui du besoin de reconnaissance, du caractère unique, de la valeur de sa personne, dans un monde qui change à vitesse grand V. Alors oui, qu'on soit jeune ou vieux, nos identités, elles sont quand même fragiles, elles restent fragiles. Elles se font et elles se défont au fil des événements qui nous rattrapent. Et certains événements nous rappellent malheureusement à quel point nos repères peuvent basculer, à quel point notre sécurité est précaire. Dans la grande odyssée du sens, nous essayons de construire une histoire dont la cohérence est toujours menacée par des aléas difficiles à intégrer dans nos récits de vie. Au fond, par-delà et malgré les fractures intergénérationnelles, nous sommes toutes et tous profondément semblables. Lorsque Jésus arrive à la synagogue de la région qu'il a vue naître, il n'est ni un jeune, ni un vieux. Il est le porteur de l'Esprit. Il incarne l'accomplissement de la volonté de Dieu. En face de lui, il y a des gens qui ont besoin d'espérance et de réassurance. Jésus parle une langue que l'Assemblée connaît bien, celle de sa tradition. Et il annonce la fin de l'attente, la fin de l'errance, la fin de l'angoisse. Tout le monde a envie d'y croire. Mais Jésus sait bien qu'en face de lui, il y a des résistances au changement, à la nouveauté, à tout ce qui vient déjouer les certitudes. Or, Jésus est porteur d'une révolution. Il ne s'agit pas d'un changement visible, d'une transformation évidente, mais d'un bouleversement intérieur. Parce que Jésus annonce la grâce. Dans un monde où tout se mérite, il renverse la perspective. La grâce, ce n'est pas la récompense de nos investissements. Elle ne vient pas renforcer nos certitudes. Au contraire, elle se fraye un chemin à rebours de tout ça. Là où nous pensons vivre dans un monde sans surprise et où tout se mérite, la grâce nous dit « autre chose est possible ». Là où nous croyons pouvoir juger nos semblables et rejeter ceux qui nous font du tort, la grâce nous dit « tu ne peux pas condamner cette personne car tu ne l'as jamais vraiment rencontrée ». Alors c'est un peu déroutant parce qu'au fond de nous, nous n'aimons pas lâcher nos certitudes. Et c'est pour ça que l'auditoire de Jésus l'a rejeté, parce qu'il lui annonçait une grâce qu'il ne pouvait pas recevoir. Là où nous désespérons de la vie, de nous-mêmes ou de nos semblables, la grâce nous dit « Dieu vous donne de vivre de nouvelles expériences ». Mais c'est tellement difficile à croire. Comment imaginer que la vie peut continuer lorsque toutes nos certitudes basculent ? Lorsque tout ce qui faisait notre sécurité disparaît, lorsque tout ce qui faisait notre fierté est renversé, comment imaginer que celui ou celle qui m'a blessé a le même droit à la vie que moi? Comment penser un monde où les compteurs des fautes sont en permanence remis à zéro? Comment oser continuer à écrire une histoire commune avec celles et ceux à qui nous avons causé du tort? Et ça, c'est des questions qui reviennent très souvent dans les drames que nous vivons au quotidien. Jésus est venu incarner la guérison et la libération pour celles et ceux qui n'osent plus faire confiance ou qui ne se croient plus dignes de confiance. Mais on a vu, ce ne sont pas forcément les personnes les plus proches de lui qui lui feront le meilleur accueil. Ses compatriotes partagent les mêmes références que lui. Ils ont la même religion et pourtant ils ont certaines représentations. Et lorsque Jésus leur annonce la fin de leur misère, ils sont d'abord étonnés, impatients. Ils se disent qu'il va leur faire voir quelque chose qui correspond à ce qu'ils ont toujours imaginé. Quelque chose comme la punition des méchants et la récompense des gentils, par exemple. Et puis ils se disent que ils seront certainement les grands gagnants de la rétribution finale. Or, Jésus sait que ce type de raisonnement fait barrage à ce qu'il veut donner. Il veut donner une nouvelle compréhension de soi, une nouvelle acceptation des autres, une nouvelle manière de vivre ensemble. Et ce ne sont pas celles et ceux qui sont pétris de certitudes qui peuvent recevoir la guérison, ceux qui savent qui sont les bons et les méchants. Ceux-là ne reçoivent pas la guérison. Ceux qui reçoivent la guérison, c'est celles et ceux qui désespèrent de leur certitude et qui n'ont plus rien à perdre. Alors non, Jésus ne peut pas être accueilli par les personnes qui projettent sur lui des attentes figées. Il ne peut pas leur donner satisfaction. Il ne peut qu'attiser leur déception. Et nous, si Jésus venait nous adresser son message, est-ce que nous lui ferions bon accueil? Est-ce que nous serions prêts à le recevoir? Nous aussi, nous avons de la peine à vivre ensemble. Nous avons des incompréhensions, des fractures entre nous, parmi nous. Et de quoi sont-elles le symptôme? Eh bien, je pense qu'elles sont le symptôme d'un rêve, d'une identité qui soit forte, qui soit inébranlable, qui soit résistante à tous les changements. Nous cherchons à nourrir un sentiment de sécurité, de complétude, et qu'on s'accroche à un âge d'or ou à un futur idéal, c'est toujours la même rengaine, celle de notre angoisse face à ce qui menace la cohérence de notre histoire. L'autre, le jeune, le vieux, devient le révélateur d'une fragilité, parce qu'il ou elle incarne une autre manière d'être au monde que la mienne. Il me montre une autre façon de construire sa vie. Et le cours de ma vie se trouve brusquement relativisé, replacé dans un univers plus vaste. Alors je crains de perdre mes repères. Alors je repousse cet autre hors de la sphère de la rencontre. Je lui colle une étiquette. Je le range au vestiaire des idées reçues. Paix sur la terre aux personnes que Dieu aime, peut-on lire dans le même évangile de Luc, un peu plus tôt, au moment de la naissance de Jésus. Car Jésus n'apporte pas seulement la paix du cœur, mais aussi la paix sociale. On ne peut pas dissocier l'une de l'autre. Si je décide de faire confiance à ce que Jésus incarne, je ferai l'expérience d'une immense puissance d'acceptation. Je n'aurai plus à vouloir, à tout prix, conquérir et préserver mon identité. Je n'aurai plus à forcer la reconnaissance de mes semblables. Ce sentiment d'être quelqu'un d'unique et d'irremplaçable me sera donné, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements qui menacent la stabilité de ma vie. Et même si parfois j'ai l'impression de me perdre dans la complexité du monde, alors les autres ne seront plus des menaces pour mon sentiment de sécurité personnelle. Ils seront les porteurs de la même dignité que moi. La paix est profondément ancrée dans l'histoire et à chaque époque, elle nous fait signe. À chaque époque, il est possible d'aimer. À chaque époque, il est possible aussi de passer à côté de ses semblables. C'est un travail à remettre chaque jour sur le métier. Alors comment pouvons-nous travailler à cette paix dans nos communautés? Quel message laissons-nous à nos jeunes? Comment est-ce que nous incarnons pour elles et pour eux la grâce que Jésus nous laisse en héritage? Non, nos églises ne sont pas des îlots d'indifférence au milieu d'un monde qui passe. Elles sont les témoins d'une puissance d'acceptation qui permet de relativiser la peur de manquer de reconnaissance, qui permet de nous sentir moins vulnérables face à celles et ceux qui nous blessent et qui nous ignorent. Elles sont les témoins d'un amour qui permet d'oser espérer lorsque tout semble se briser. Elles sont des lieux de communion où on peut se reconnaître mutuellement comme les porteurs d'un même désir de vivre et de construire son histoire. Elles orientent le regard sur ce qui rassemble et pas sur ce qui divise. Nous construisons dans nos paroisses des lieux où vivre ensemble est une responsabilité à exercer et un art à mettre en pratique. Si nous devenons porteurs de la paix qui nous est donnée, alors nous pourrons transmettre aux plus jeunes ce qui nourrit la confiance qui permet de s'ouvrir aux autres. Et plutôt que de les assimiler à nos habitudes, nous pourrons les laisser nous ouvrir à leur parcours de vie et leur faire une vraie place parmi nous. La paix, l'accueil et la confiance en l'amour qui nous précède sont le terreau dans lequel nous puiserons la force de nous unir pour nous soutenir dans les drames. Alors tous ensemble, nous pourrons continuer d'écrire une histoire commune, ouverte et pleine de sens, avec celles et ceux qui portent la mémoire du passé et avec celles et ceux qui portent l'espérance de l'avenir. Amen.